Bienvenue sur la chaîne Ambiance, Architecture, Urbanité, AAU.
Nous allons passer à la présentation suivante. Donc cette fois-ci, c'est Sylvain Guittard et Simon Galland, architectes pour le... Alors, je ne sais pas si on dit collectif toujours, mais Saga Architecte, et Anis Tslemsamani, qui est intervenu précédemment, qui va également...
Est-ce que vous nous entendez, là? Oui, ça passe. Du coup, Sylvain Guittard de Saga Architecte et donc Anis Tlemcen-Mani qui a travaillé, enfin, on travaille ensemble sur un projet qui s'appelle Plan B et qui est situé à Bellevue. Donc, c'est un projet porté par des associations du quartier et en fait, ils sont venus nous voir puisqu'ils avaient un projet de halle, enfin, disons de bâtiment dans lequel ils pourraient s'installer et pratiquer leur. Leurs différentes en fait, disons qu'ils ont plusieurs disciplines et qui sont toutes tournées autour de du réemploi ou des objets issus de la vente de seconde main ou des déchets alimentaires qui sont réemployés ou redistribués, etc. Et en fait, tout ce petit monde là de ces assos, avec chacun leurs bénévoles qui ont déjà des pratiques sur toutes les semaines, se sont retrouvés en fait là à vouloir se mettre en commun, proposer un projet auprès de l'ANRU, puisqu'on est dans le quartier QPV de Bellevue, donc du coup il y a une ZAC, etc. Donc il y a des budgets en fait nationaux aussi qui sont alloués. Donc ils font une proposition de projet de bâtiment commun pour pouvoir mettre disposer d'un espace à eux autour de leur pratique. Donc évidemment, dans leur vision, il faisait sens, comme ils ont tous des disciplines, enfin ils sont tous tournés autour du réemploi d'une manière ou d'une autre. En fait, ça leur faisait sens de demander à ce que le bâtiment soit aussi en partie issu du réemploi dans sa construction. C'est là où nous, on intervient, c'est-à-dire qu'ils viennent nous voir et ils nous disent ça parce qu'ils ont vu nos travaux précédents qu'on a pu faire, en particulier en Afrique du Sud, dans des contextes complètement différents, mais où on a utilisé le réemploi plutôt pour des fins économiques et aussi parce que c'était des sources et des gisements très faciles à mobiliser sur place. Et donc là, en fait, ils sont venus nous voir avec ces images-là en nous disant, bah voilà, nous, on a vu que vous savez intégrer des projets dans des communautés. Donc là, nous, enfin, eux, ce sont aussi une forme de communauté dans ce quartier, avec leurs bénévoles et leurs influences auprès des citoyens. Et donc voilà, donc on s'est retrouvés là-dedans comme ça. Donc, suite à ça, en gros, ça c'est la partie de commande. Donc du coup, c'est un atelier de fabrication bois-métal, une zone de distribution de paniers repas toutes les semaines pour 250 paniers repas environ. Donc ça fait énormément de monde sur une journée dans la semaine, toutes les semaines. Ça c'est avec le marché alternatif de Bellevue. Il y a une autre association qui s'appelle la Régie de quartier Océan, donc qui n'est pas une association du coup, mais qui est une régie de quartier, et qui, elle, fait entre autres un magasin sur Bellevue de mobilier de seconde main et puis de vêtements aussi de seconde main, ressourcerie. Et ensuite, on a aussi, enfin, il y a d'autres associations qui sont autour de la mise en place d'ateliers autour du numérique, etc., pour aider en fait les habitants du quartier à s'accaparer de ces nouveaux outils. Donc voilà, et donc on se retrouve avec cette commande-là. Alors évidemment, c'est un projet en rue, donc c'est énormément subventionné. Les subventions sont évidemment fluctuantes, c'est-à-dire qu'il y en a qui arrivent puis qui repartent. Donc ça fait un an qu'on est dessus, on ne sait toujours pas vraiment combien on a pour faire les travaux, mais c'est ça qui est intéressant. Mais alors encore une fois, ils ont un petit budget, mais ça à la limite c'est classique en tant qu'architecte. Et puis, mais la grande différence, c'est qu'encore une fois, donc comme je le disais tout à l'heure, on est face à une communauté. Ils sont énormément de bénévoles. Chacun, enfin, comme je le disais, c'est aussi des associations qui distribuent à 250 familles, enfin, chaque semaine. Donc, c'est voilà, ils ont énormément, enfin, ils ont un réseau en tout cas très très grand. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut mobiliser facilement dans la construction autour de chantiers participatifs. Donc c'est aussi une denrée et une énergie pour nous. Cette volonté de réemploi, elle est aussi, donc comme je disais avant, pour nous, c'était une nécessité plus économique dans nos projets. Et là, en fait, c'est une volonté de posture de la part de la maîtrise d'ouvrage. Et en fait, pour nous, en tant qu'architecte, c'est énormément... Ça fait très grande différence pour nous. Enfin, en fait, là, on va se retrouver à non plus travailler sur des matériaux. On ne va pas choisir par nécessité budgétaire pour construire ensuite. On va choisir parce qu'il faut que ça rentre aussi dans des cadres qui sont réglementaires. Et en fait, là, le but de ce projet, c'est de faire rentrer de manière réglementaire du réemploi dans le bâtiment. Et on parle d'un ERP, donc du coup, il y a des strates de réglementation supplémentaires que l'on découvre au fur et à mesure grâce à plein de bureaux d'études divers et variés autour de nous et qui nous apportent plein de nouvelles connaissances qu'on ignorait jusque-là, qui font que, voilà, nous, ça nous pose aussi plein de questions par rapport à notre métier d'architecte, mais ce n'est pas vraiment la question aujourd'hui. Donc le bâtiment, ça c'est une image qui date un peu, mais le principe est toujours le même. En gros, on se retrouve sur une friche du quartier prioritaire de Bellevue. Et on doit faire en fait une grande halle. Et en gros, la grande halle, c'est une réponse à leurs envies la plus évidente. C'est-à-dire qu'on a très peu d'économies. On a la volonté d'avoir un lieu commun à partir de réemploi. Donc en fait, commencer par dire on va faire un bâtiment qui fait 500 mètres carrés. Avec des travées de 5 mètres. Enfin, on reste sur des choses très classiques. Et ça va nous faciliter, en fait, les sections à trouver issues des constructions ou des poses précédentes. Donc c'est une des premières alternatives qu'on a proposées et qui a été retenue. Et ensuite, aussi, ça nous dégage de plein d'autres contraintes. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une première enveloppe dans laquelle on va venir construire. C'est très basique aussi, encore une fois, mais... Du coup, on va segmenter les problèmes en fonction des différentes interfaces entre les milieux. Donc la première, la grande halle, elle va gérer juste l'interface de perméabilité, d'imperméabilité à l'eau. Et à l'intérieur, on aura une autre interface qui sera celle qui va isoler du coup le bâtiment thermiquement et acoustiquement. Donc évidemment, ça pose plein de problèmes. Dans le sens où on est face à une maîtrise d'ouvrage multiple, donc pour mettre tout le monde, mais ça c'est notre boulot, mais pour mettre tout le monde d'accord, c'était pas forcément évident.
Peut-être juste petite parenthèse aussi pour compléter ton propos, Sylvain, c'est que donc c'est un projet de tiers-lieu qui s'inscrit au départ dans le portage politique des élus dans l'idée de l'urbanisme transitoire. Mais ça, c'est une notion assez piégeuse, en fait, au sens où, du fait de la nature du programme, on reste quand même sur un programme en dur qui, néanmoins, doit être démontable autant que possible. Alors évidemment, jusqu'à un certain point, puisque toute la partie fondation, infrastructure, elle, est forcément en dur et difficilement, ne peut pas être réversible. Bon, ça, c'est une notion qu'il a fallu un peu déminer auprès des élus. Parce que quand ils parlaient d'urbanisme transitoire, ils avaient plutôt en tête, si je caricature, mais pas tant que ça, un chapiteau finalement, quelque chose de très léger, voilà, qui ne laisse pas de traces et qui n'a pas d'impact sur le terrain d'assiette. Compte tenu de la nature du programme, c'est pas tout à fait comme ça que les choses peuvent se matérialiser. Bon, c'était juste une petite parenthèse de contexte.
Du coup, juste pour compléter du coup le même dans la suite, c'est-à-dire que comme on était sur quelque chose de temporaire, on avait aussi besoin d'efficacité en termes de mise en œuvre, et d'où aussi la forme de la halle, parce que suite à une économie par rapport au budget de travaux, pour faire 500 mètres carrés, on n'a pas grand-chose, donc il fallait qu'on réussisse à trouver quelqu'un qui était capable de nous couvrir de l'espace très très vite. Et donc on était parti sur des systèmes de serre, maintenant on est sur des charpentes agricoles, on est un peu partout. Il y a aussi ce gabarit-là, en fait, il était aussi dû parce qu'à un moment on a trouvé une charpente métallique qui allait être démontée. Et c'est là où c'est intéressant aussi, tout à l'heure je disais qu'on était entouré de plein de bureaux d'études, mais il y en a entre autres un que nous on a découvert sur ce projet-là qui s'appelle le bureau de contrôle. Et du coup on a trouvé, donc on travaille avec la Socotec, mais ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'en fait, ils font aussi des diagnostics sur de la déconstruction. Et en fait, eux sont une source de gisements de matériaux et de réemploi incroyable. Parce qu'en fait, tous les jours, ils répondent à des diagnostics. Enfin, ils font des propositions de devis sur des diagnostics de démolition ou de déconstruction de bâtiments. Et donc aujourd'hui, en fait, quand on est allé dans leur bureau, finalement, il y a un moment où on a réussi à rentrer dans le bureau, non pas de notre contrôleur technique, mais du contrôleur, mais de celui qui propose les diagnostics sur la déconstruction. Et en fait, là, on lui a demandé, mais vous travaillez sur quoi en ce moment? Et du coup, il nous a montré toutes ces photos de diagnostic. Et là, en fait, c'était juste un marché qui s'ouvrait devenant, quoi. On avait juste à choisir telle menuiserie, nous, on voulait récupérer telle menuiserie, machin. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à mettre tout ça en place, mais disons que l'idée, dans l'idée, ce serait vraiment bien. Donc voilà, et donc c'est eux qui nous avaient proposé un grand hangar avec des charpentes métalliques qui correspondaient très bien, sauf dans le prix de déconstruction et de repose future. Et puis ça pose plein de questions. Donc je vais juste peut-être te laisser parler là-dessus, si tu veux. Enfin, sur le forme réemploi, et je continuerai après.
Ouais. Donc, bon, vous l'avez compris, hein, l'idée générale un peu du projet, c'est de s'inscrire plutôt dans une démarche de glanage architectural. Au sens où passer, la formalisation un peu générale du projet dans son programme au travers d'une halle d'un volume capable dans lequel s'inscrit un volume chauffé pour les usages le nécessitant. Tout le reste, en fait, relève d'une logique plutôt d'adaptation en fonction des opportunités. S'agissant, puisque ce volume chauffé est conçu en ossature bois, mais du coup, on vise pour le coup, puisque moi, mon rôle dans le projet, oui, alors que je précise quand même. Donc là, pour le coup, je suis AMO et mon rôle est d'accompagner la maîtrise d'ouvrage dans l'intégration des gisements identifiés sur le plan normatif, réglementaire, etc. Enfin, en gros, faire en sorte que ça puisse passer avec le contrôleur technique et les assurances sur lesquelles se repose, enfin, qui se repose elle-même sur le contrôleur technique. Donc, en fait, mon rôle est plutôt celui d'un facilitateur, finalement, et par rapport à une réglementation donnée qui dépend elle-même de la nature du programme, donc un ERP. Ce qui est intéressant en fait dans ce processus-là, c'est qu'aussi on est sur un processus parce qu'on peut faire du réemploi de façon assez, en termes de phasage, assez conventionnel. C'est-à-dire qu'on peut se reposer, arrêter une démarche de prescription en se reposant sur des plateformes telles qu'aujourd'hui Articonnex. Mais pour le coup, en ayant déjà, en restant dans une démarche de prescription, classique. Là, pour le coup, la spécificité aussi de ce projet, c'est que l'identification et la réservation des matériaux se fait en amont des consultations d'entreprise. Ce qui veut dire que du coup, la maîtrise d'ouvrage aussi prend une responsabilité en fournissant finalement, en fléchant la fourniture aux entreprises et en s'assurant d'un stockage en amont. Et la dimension d'aventure finalement, c'est que les rôles habituels se fondent un peu, puisqu'aujourd'hui, typiquement, on est amené aussi à charger, décharger des matériaux, les stocker, réaliser des inventaires. Et finalement, de façon assez conjointe, qui implique à la fois la maîtrise d'ouvrage, les architectes, moi, l'AMO. Enfin voilà, tout le monde met un petit peu la main à la pâte. On est à la fois dans le. Du coup, ça implique aussi un rapport à la matière qui est assez différent d'une démarche de projet classique et de prescription, enfin, s'agissant de la position de l'architecte, puisque là, pour le coup, les matériaux qui vont être destinés à la mise en œuvre, on les a déjà manipulés avant leur mise en œuvre. Ça, c'est aussi une spécificité de ce projet et ce qui en fait aussi, détermine un peu, il y a une dimension réellement expérimentale. Et c'est vrai qu'il y a les premiers projets de réemploi en France qui sont sortis, il n'y en a pas tant que ça finalement, moins d'une dizaine dans la décennie, relevaient plutôt de ce mode un peu expérimental où les rôles tendaient un peu enfin, la limite des rôles de chacun tendait un peu à devenir un petit peu plus flou. Donc là, voilà, on reste un peu dans ce schéma expérimental qui a un peu pour effet aussi de dynamiter le caractère séquentiel du projet et le rôle de chacun, notamment dans la fourniture, puisqu'on vient s'immiscer dans la question du stockage et de la fourniture aux entreprises en amont. Et donc, parce que le sujet récurrent dans le réemploi, c'est la question de la fourniture, du fournisseur. Le fournisseur n'étant plus un négoce qui lui-même se fournit auprès d'industriels de produits neufs, c'est aussi la nécessité de mon rôle est aussi de venir pallier à ça, parce que notre obligation va être quand même de revenir dans un cadre d'assurance décennale. Et c'est toute la problématique, en fait, en règle générale, du réemploi. C'est des matériaux qui sont sortis du cadre décennal, doivent y revenir de nouveau. Donc pour ça, il faut reborder les choses. C'est des sujets communs, d'ailleurs, qu'on a avec les plateformes, notamment avec Articonnex, sur comment requalifier les matériaux. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que si on n'aborde pas ce sujet-là de front, on ne peut pas y arriver. On n'obtiendra pas la conformité attendue. Et là, on est dans un cadre où c'est un ERP, il y a un contrôleur technique, etc., des assurances. Donc, on ne peut pas y couper. Bon. Donc, voilà un petit peu la mécanique générale avec cette dimension un peu de glanage et aussi de, on va dire, d'incertitude. Mais c'est ce qui fait aussi un peu le sel de la démarche, hein, et son caractère un peu non conventionnel, qu'il va falloir s'adapter et que notamment les architectes doivent faire preuve de beaucoup d'adaptabilité par rapport à ça.
Bah, je vais juste illustrer du coup rapidement ce qui vient d'être dit, mais ok, pardon, je me dépêche juste. Mais alors du coup, ça, c'était, je pense que beaucoup l'ont dû le voir cet été sur la place du commerce. Donc c'était les façades chromatiques pendant le voyage à Nantes cet été. Et en fait, le van, en fait, savait pas quoi en faire après. Et donc ça, c'est aussi un truc qui, par rapport au réemploi, pardon, je me dépêche. Ils sont vraiment en train de se poser des questions par rapport, au monde culturel, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait demain de ce qu'on met pendant 3 mois ou quelques mois. Et donc évidemment, en fait, eux, ils stockent ça quelque part. Et normalement, ça part au recyclage, au traitement. Enfin, on a les mots qu'on veut pour dire que ça va brûler. Et donc nous, c'est rien à voir sur notre œuvre, mais c'est juste pour dire que nous, c'est ce qu'on doit y voir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on voit des potentiels et des façons de les agencer et des potentiels des capacités à la fin à quoi la matière va ressembler. Ça demande effectivement aux architectes de se transformer des fois en des démonteurs de structures, de superstructures comme ça au milieu de nulle part. Il y a aussi énormément de choses qui se découlent de ces déconstructions, qui sont des impensées. C'est-à-dire que là, toute la quincaillerie, en fait, on a dévissé des milliers et des milliers de vis en 6 jours. Et en fait, ça pèse plusieurs dizaines de kilos et on ne sait pas exactement quoi en faire. Parce qu'en termes, par rapport à un contrôleur technique, une vis n'est utilisable, mais même un charpentier n'est utilisable qu'une fois. Donc en fait, tout ça part normalement à la benne. Donc on ne sait pas si ça sera bougé. Donc ça demande aussi des moyens, en tout cas très très forts, et qui sont à demander à la maîtrise d'ouvrage avant même de savoir si on va pouvoir l'utiliser dans le bâtiment. Et ça demande aussi évidemment un lieu de stockage et des capacités de stockage et de rangement qui sont... là, on a passé 3 jours à tout stocker. Et ça, c'était la dernière image sur laquelle je voulais finir. Mais en gros, c'est qu'à la fin, si on a un tas de bois, et l'enjeu, c'est de savoir le ranger pour qu'il soit disponible et utilisable tout de suite, et en sachant ce qu'on va en faire. Et donc là, c'est un tas de bois pour faire un feu dans une ferme, mais ça peut être... l'enjeu, c'est de réussir à ça à la fin. Et pour ça, il faut réussir à mettre tout le monde ensemble. Voilà.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou derrière vos écrans ?
Merci. Du coup, Ah oui, Mathilde Planchot, au laboratoire du Creno. J'ai une question concernant la structure. Vous expliquiez, du coup, vous avez fait le choix de votre structure en fonction de l'objet que vous aviez trouvé qui va être réemployé. C'est bien ça. Et du coup, comment ça s'est passé ? Parce que ce qu'on connaît, je pense, du réemploi, c'est beaucoup peut-être pour le second œuvre, mais c'est assez incroyable de réemployer quelque chose en structure. Donc, si vous pouvez parler par rapport à ça.
Comme je le disais, en fait, on sait que ces dimensionnements-là, on va pouvoir trouver des charpentes assez facilement pour réaliser ces dimensionnements-là. Donc en fait, l'enjeu, il est plutôt de se caler dans un premier temps sur une forme de bâtiment avec des systèmes structurels qui sont très communs pour pouvoir trouver ensuite des sections plus facilement sur des chantiers de déconstruction. Donc ça, on n'a pas tout de suite les matériaux, mais on se dit que si on va par là, on va avoir plus de gisements que si on va ailleurs, quoi. Que si on va dans une forme très compliquée. Et...
Merci. Et oui, alors pour le coup aussi en plan B, il y a une sécurisation parce qu'en effet, comme l'évoquait Sylvain tout à l'heure, il y a une tentative sur de la charpente métallique, mais il s'est avéré qu'en fait le coût de dépose, on n'a pas réussi à trouver en tout cas de charpentier qui sache nous déposer, nous requalifier et nous remettre en œuvre à la charpente de façon pour le coup compétitive par rapport à de la charpente bois agricole, très clairement, qui repose là, pour le coup, les charpentes agricoles bois, elles sont sur un modèle économique, je ne sais pas comment ils font, mais ça sort vraiment à pas grand-chose, quoi, au mètre carré. Donc ça, en sécurisation, on sait qu'on peut toujours compter sur une charpente agricole qui sera, pour le coup, neuve. Mais voilà, si on arrive à trouver une opportunité qui rentre dans ces coûts-là, requalifier, on y va, mais bon. C'est... Par contre, il y a des éléments quand même structurels parce que tout le volume chauffé, on a de l'ossature, on va avoir du poteau-poutre. Et donc ça, c'est quand même des éléments qu'il faut requalifier en termes d'essence, en termes de classe d'emploi, en termes de résistance mécanique. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose que je regarde de très près et qu'on source, enfin que je source pour le coup. Mais ce sera probablement beaucoup plus atteignable, en effet, que de trouver une charpente, parce que ça, là, pour le coup, c'est des questions de dimensionnement, d'opportunité. Enfin, c'est clairement plus complexe que de trouver des sections de solives assez courantes, en fait.
Merci. Y a-t-il d'autres questions, Grégoire?
Non, je voulais... Pardon. Grégoire Chelkoff. Je comprends toute cette mécanique du réemploi, etc., mais je voulais revenir aux questions d'ambiance, en fait, à l'expérimentation des ambiances. Et je me demandais comment c'est perçu, par exemple, par les habitants, cette démarche. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là qui vous viennent à l'esprit au regard de cette perspective, quoi, de réemploi, de réutilisation de choses qui se feraient sans doute dans un tissu urbain comme celui-ci, mais peut-être pas dans d'autres. C'est quand même assez social, comme on va dire, hein, comme perspective. Et comment c'est perçu, ne serait-ce que ça? Et est-ce que vous-même, vous avez une idée de... est-ce que ça produit des ambiances spécifiques de travailler avec ce type de... Voilà, de stratégie?
Nous, sur l'aspect architectural, disons, d'ambiance, on a... Nous, dans notre pratique, on a souvent été rapprochés à ce qu'on peut appeler de l'architecture du bricolage, puisque justement, on rapporte des matériaux qui ne sont pas faits forcément pour de la construction et qui ne sont pas faits, en tout cas, pour être mis en œuvre tel que nous, on le met en œuvre. Donc, c'est des esthétiques aussi qui font peur, qui paraissent être pauvres, au rabais. Et donc, en fait, c'est sûr que c'est des images qui sont qu'il faut expliquer dans la démarche. Nous, on l'a eu sur ce projet-là, parce que, comme je le disais, c'est beaucoup de gens. Donc tout le monde n'est pas là à toutes les réunions. Donc en fait, dans la maîtrise d'ouvrage, des fois, on découvre des gens à une réunion alors qu'on est déjà en 14e APD. Et du coup, en fait, on se retrouve là et en fait, on doit redessiner le truc et on en discute. Et en fait, quelqu'un arrive et fait « Mais non, mais c'est quoi ce... » Et donc en fait, là, il faut qu'on réexplique la chose. Et effectivement, on nous a dit, mais en fait, alors nous, on est des assos, on n'a pas aucune de ces assos n'a de local. Ils disent, et voilà, et nous, en fait, on a ça comme subvention, et en fait, on doit faire un truc à partir de leur emploi, ça va ressembler à une grosse cabane de jardin et tout ça. Et effectivement, et en fait, nous, par contre, l'enjeu sur celui-ci, comme je le disais par rapport aux autres, c'est qu'on doit le rentrer de manière réglementaire. Et en fait, l'enjeu, c'est justement de... peut-être aussi potentiellement de quitter cette esthétique du bricolage. Parce qu'en fait, on n'est pas là pour faire un truc cheap au fond d'un quartier prioritaire, mais on est plutôt là pour faire un bâtiment qui soit à l'image de ceux qui vont être dedans, et du coup, de faire un truc assez lumineux, assez ouvert, etc. Mais c'est pas bon, ça, à la limite. Mais disons que la mise en œuvre, en fait, elle doit respecter les matériaux et la noblesse de... Là, on parle de bois, par exemple, pour la charpente. Et le but, c'est de faire quelque chose qui soit tout à fait aussi respectable visuellement que dans n'importe quel autre quartier de la ville sur une commande publique, quoi. Alors...
En termes de matière aussi, pour le coup, le bois est quand même un matériau privilégié. Enfin, pour moi, c'est quand même un des matériaux, si ce n'est le matériau de prédilection de la réutilisation aussi. Puisque c'est un matériau qui se détourne très bien en termes d'usage. On sait bien, un élément structurel peut être débité, peut du coup devenir peut produire des éléments non structurels, des éléments de panneaux prévus pour un certain usage, notamment... On l'a envisagé, alors bon, c'est pas totalement... Voilà, il y a toujours des questions aussi d'équilibre économique qui sont pas toujours évidentes, notamment par rapport aux enjeux de requalification, mais fait un petit moment qu'on réfléchit autour d'un détournement de panneaux issus d'une déconstruction qui servait en gros de silo à grains, des panneaux très épais, hein, qu'on ne construit plus, qui ont une constitution un peu spécifique, multiplique, ou qui n'existent plus aujourd'hui, qui ont 30-40 ans, et qu'on envisageait de détourner en platelage, c'est-à-dire sur solive. Mais pour le coup, on est sur quelque chose de potentiellement beaucoup plus qualitatif, puisque platelage, basiquement, on prend un OSB qui fait là, pour le coup, 22. Là, on est sur des panneaux de 40 mm. Après, il y a un équilibre économique. Enfin, voilà, typiquement, ça peut être aussi l'opportunité. Enfin, là, pour le coup, dans ce qu'on envisage, notamment sur le traitement du volume chauffé, c'est quand même beaucoup de matériaux bois. Donc, avec les problématiques, enfin, les rendus d'ambiance qui sont ceux du bois, avec des potentiels détournements d'usage aussi. Enfin, un peu sur le sujet ambiance et matière.
Merci, on peut vous applaudir.